Bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast tout tennis. Cette semaine, on regarde ce qui s'est passé du côté des Canadiens et ce qui s'en vient pour eux. Hugues Léger a réalisé une entrevue avec Richard Quérillon de Tennis Canada et Nicolas Richard nous reparle de l'histoire fabuleuse de Jessica Pegula. Et justement, Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti.
Salut, salut, bienvenue au Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, le podcast sur la ligne, disponible sur toutes vos bonnes plateformes et également diffusé au BPM Sport. Nicolas Richard, comment te portes-tu?
Porte à merveille, une autre belle journée d'hiver, un petit peu froid, mais les conditions de ski ce matin est extraordinaire, fait que on est choyé.
Es-tu allé faire du ski un peu ce matin?
Tous les matins, au sommet Saint-Sauveur.
Oui.
Génial.
Wow. Ça fait. Hugues Léger, à distance, comment te portes-tu?
Ça va bien. Écoute, on passe de moins 40 samedi matin, vendredi soir, à un beau petit moins 2 ensoleillé dans le canton de l'Est. On dirait presque le printemps aujourd'hui. Donc, ça va bien. Puis, écoute, heureusement qu'il faisait un peu moins chaud pour nous que pour Bianca Andreescu, qui a semblé un peu subir la chaleur en Thaïlande ce week-end.
Ouais, on va reparler de Bianca. C'est un peu un copier-coller de ce qu'on se dit depuis un an, encourageant mais inquiétant. Ouais. On verra. Messieurs, avant qu'on tombe dans le bloc d'actualité, j'ai des petites nouvelles pour vous. Dans un premier temps, il y a beaucoup plus de monde qui nous écoute dans les dernières semaines. Là, on parle d'une augmentation là, des chiffres autour d'à peu près 20%. Alors, j'ai l'impression qu'on a des nouveaux auditeurs. Alors, si c'est la première fois que vous nous écoutez ou si c'est dans les premières fois, bienvenue et on espère que vous aimez ce qu'on fait et que vous allez nous suivre pour les années à venir parce que c'est un projet qu'on a qu'on va étendre sur le long terme. Et autre bonne nouvelle, messieurs, j'ai décidé de faire ce que je fais jamais et je vais prendre des vacances pendant la saison normale de hockey, si on veut, et je vais partir au mois de mars. Et Nico, début mars, je vais aller faire un tour en Californie. As-tu une idée pourquoi?
Les Golden Seals de la Californie, il doit y avoir un musée dans ce coin-là.
Je risque d'aller faire un tour aux Kings de Los Angeles. Il y a des chances, puisque je vais être dans ce coin-là. Mais je risque d'aller faire un tour dans le coin de Palm Springs. Hugues Léger, droit de réplique, as-tu une idée de ce que je vais aller faire là?
Ben écoute, tu vas aller prendre un peu de soleil, puis peut-être aller dans une station thermale.
Oui, entre autres, je vais vous aider un peu, messieurs, là, je vais aller, puis je sais que vous le savez, je vais aller faire un tour.
C'était fin, hein, comme improvisation.
Oui, c'est honnêtement, ça, les Oscars s'en viennent et honnêtement, messieurs, vous pourriez être en nomination. Mais le podcast Sur la ligne et BPM Sport, on a été accrédité pour Tennis Paradise. Prestigieux Indian Wells et c'est moi qui vais aller faire un tour là-bas. Je vais prendre une partie de mes vacances pour aller travailler, mais ça me fera un grand plaisir d'aller à ce tournoi-là. Ça fait longtemps qu'on me dit d'aller faire un tour. Alors, je vais aller faire un tour pour les premières rondes. Notre demande d'accréditation a été acceptée et je trouve que ça en dit long sur le travail qu'on fait, messieurs, parce que c'est pas facile de se faire accréditer dans ces tournois-là. Évidemment, on a eu l'appui de la radio et de Tennis Canada, mais quand même, Sur la ligne va être là-bas. Alors, c'est l'excellente nouvelle dont je voulais vous partager.
Bravo, super nouvelle. Puis effectivement, on veut vous donner le pouls du circuit semaine après semaine et autant que possible, quand on peut être sur place, on va y être. Et ce ne sera pas, je crois, la dernière occasion où on vous parlera en direct d'un des plus gros tournois du monde. C'est super, Alex.
Ça devrait être le début de beaucoup et peut-être Nico aussi commencera à voyager avec la presse également. Alors, on aura des yeux autour du monde là assez plus tôt que plus tard, j'ai l'impression. Parlant de autour du monde, messieurs, on va regarder ce qui s'est passé du côté des Canadiens la semaine passée. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions, mais il y a eu beaucoup d'actions intéressantes de notre point de vue à nous, particulièrement du côté des femmes. Nico, je commence avec Bianca Andreescu. Bon, Moi, à un certain moment, je pensais qu'elle allait remporter le tournoi. Ça ne s'est pas traduit de cette façon-là. Commentaire sur cette performance de Bianca Andreescu en Thaïlande.
Oui, puis c'est pour ça que c'est un petit peu décevant, là, la fin impromptue qu'elle a connue. Donc, elle a dû se retirer pour une blessure en demi-finale là, contre Tourenko. Et c'est dommage parce qu'elle avait vraiment connu, tu l'as dit, Alex, une belle semaine. Puis ce que j'étais content de voir aussi, c'est que la WTA a encore en très haute estime Bianca Andreescu parce que dans ce tournoi là, disputé en Thaïlande, qui n'est pas un marché, disons, habituel pour la WTA, ben, c'est Bianca qui faisait les activités. C'est Bianca qui prenait des photos, qui allait dans les restaurants, qui faisait la promotion, donc, de ce tournoi-là. Ouais. Donc, de voir que Bianca, comme je l'ai dit, est encore en très haute estime pour les gens de la WTA, puis que c'est elle qui peut porter ce circuit-là d'une certaine manière à l'international. Oui, il y a le côté tennis, mais ça aussi, ça me ravit pour Bianca.
Ouais.
Hugues?
Ben, écoute, elle a été invitée, elle a accepté cette invitation-là. Évidemment, pour les organisateurs, c'est une championne de Grand Slam, donc du US Open. Elle est rentrée donc sur une invitation comme première favorite. Tout ça, c'est très bien. Moi aussi, j'étais un peu déçu de la fin abrupte, mais évidemment, c'était la star de ce tableau-là et de loin. Elle a bien géré ce tournoi-là, mais cette fin abrupte, encore une fois, blessure à l'épaule, inconfort avec la chaleur. Cela dit, elle joue à Abu Dhabi cette semaine, donc c'est un peu une fin, un peu en queue de poisson, je dirais, pour ce tournoi-là. Elle avait décidé de le faire. C'est dommage qu'elle arrête si elle est en état de jouer cette semaine. Donc, encore une fois, c'est une situation... écoutez, on est un peu habitué avec Bianca. Hein, et on est toujours, je le répète souvent, à 30 secondes de mini-drame. Ça fait partie de sa personnalité, pour le meilleur et pour le pire. Donc, ça a été une fin abrupte. J'ai bien hâte de voir comment elle va se comporter à Abu Dhabi cette semaine.
Ouais, tu fais bien dire qu'elle était la joueuse la plus notable dans ce tournoi-là, oui. Et de loin, parce que quand on regarde les autres joueuses qui étaient là, ben, tu as peut-être une Marta Kocsuk que les puristes vont connaître, mais sinon, honnêtement, là, pour le grand public, il n'y avait pas beaucoup de noms sur lesquels se rattacher, puis sinon, ben, peut-être l'autre plus gros nom, c'était peut-être Linda Fruvirtova, qui est encore une vedette en devenir, et non une vedette actuelle là, du tennis. Alors, ouais, Nico?
Non, mais j'allais simplement compléter sur le fait que Bianca, oui, c'est une demi-finale qui est peut-être décevante parce qu'on s'attendait à ce qu'elle gagne, mais pour elle, dans cette... parce que je considère qu'elle est encore dans son retour, là, bientôt ça s'achèvera, mais je pense qu'elle est encore en train de se reconstruire. Elle gagne des points et je pense que c'est crucial pour elle présentement. Oui, c'est pas les points d'une finale, mais c'est quand même beaucoup de points. Et ce matin, au classement de la WTA, elle a devancé donc Hélène Fernandez. Elle est maintenant 37e. Oui. Bianca, elle est 39e. C'est donc dire que Bianca est la meilleure Canadienne dans le classement de la WTA. Puis pour une fille qui en a bavé au cours des derniers mois, je pense que c'est salutaire pour elle, ce nouveau classement.
Ouais, Nico, c'est un point important que tu touches, le fait qu'elle revienne dans le top 40 aujourd'hui. Il y avait deux objectifs selon moi. Évidemment, avoir un momentum de gain avant les grands tournois du printemps et retrouver une place dans la hiérarchie qui va lui donner des premiers tours peut-être plus gérables aussi. Donc, je pense que c'était ça qu'elle visait. Elle a quand même accumulé des points la semaine passée. Mais effectivement, elle redevient déjà, j'ai envie de dire, la meilleure joueuse canadienne. Donc, c'est quand même prometteur pour cette saison.
Ouais, prometteur. Dans ce tournoi-là, elle a battu Harriet Dart, qui était quand même une adversaire là, qui peut être coriace au premier tour. Après ça, Zakharova, Marta Kocsuk, j'en parlais un peu plus tôt, et elle s'est inclinée en demi-finale, ou en tout cas, elle s'est retirée en demi-finale contre Lisa Turenko. C'est dommage parce que c'est une autre performance, j'oserais dire, en demi-teinte, Nico, parce que quand tu regardes le tableau, bon, c'était à elle de perdre ce tournoi-là. Je pense qu'il n'y a personne qui pouvait l'embêter dans ce tournoi-là d'ici la fin du tournoi.
Oui.
Et malheureusement, c'est encore les blessures un trop grand nombre de retraits depuis plusieurs années dans le cas de Bianca Andreescu. Les gars, est-ce qu'il faut continuer de s'inquiéter? Est-ce que c'est encourageant? Je ne sais pas quoi penser de cette performance-là.
Ben moi, ça fait longtemps que je pense qu'il faut s'inquiéter dans la mesure où on sait dans quel état elle est, puis quel genre de joueuse elle est, puis quel genre de corps elle a. Ça va la suivre tout au long de sa carrière. Il y a des athlètes comme ça qui, malheureusement, même s'ils veulent, le corps parfois ne suit pas. Pour Bianca, je pense que ça va la suivre jusqu'à sa retraite, malheureusement. Il faut dealer avec. Comme Hugues l'a dit, elle peut nous offrir le meilleur tennis comme le pire. Ça fait partie du package, comme on dit.
Ouais, je pense qu'elle est fragile. Son début de saison, son premier tour en Australie, je vous le répète, j'ai tellement aimé sa façon de jouer avec beaucoup de panache. Elle dictait les points. Même chose après en Thaïlande. Mais ça reste fragile. Mais c'est ce qui fait qu'elle est qui elle est aussi, et que dans des situations où on pense que tout est perdu, elle peut faire des revirements incroyables et remonter des matchs. Je vous rappelle son match contre Muguruza il y a quelques semaines où elle perdait 2-7. Elle avait perdu le premier set et elle était loin derrière dans le deuxième. Elle perdait 5-2 avant de gagner ce match-là. Donc, ça fait partie du package, j'ai envie de dire. Mais moi, je pense qu'elle peut encore aller chercher des grands titres Bianca Andreescu, mais on est sur des données qui sont toujours quand même un peu préoccupantes, voire fragiles.
Donc, on tire la même conclusion. Oui. Quelques éléments encourageants, mais quand même, ça reste une source d'inquiétude déjà en ce début de saison. Oui. Bon, enfin, on aime mieux l'avoir enchaîné des matchs que pas enchaîné des matchs, là, cela dit. Oui. Ça, c'est le cas de Bianca Andreescu. On reviendra à ce tournoi-là un peu plus tard là, pour parler des gagnantes. Je veux qu'on aille tout de suite à Leila Annie Fernandez. Elle a dû se qualifier. On va parler d'Abu Dhabi un peu plus tard. Mais elle a dû se qualifier. Tu parlais du classement qui a chuté un petit peu ou que Bianca a passé devant Leila. Moi, j'ai même été surpris. Je n'avais pas réalisé qu'elle devrait peut-être passer dans des qualifications ici et là, Hugues.
Oui, et n'oubliez pas, Abu Dhabi, c'est un tournoi très payant. Donc, les joueuses ont envie de le faire. C'est un tournoi que les joueurs et les joueuses aiment aussi. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut gagner des matchs. Il faut enchaîner. Moi aussi, je suis un peu étonné quand je l'ai vu dans le tableau des qualifs, mais elle va remonter tranquillement. Moi aussi, je suis content je suis encouragé du début de saison de Leila. Et donc, elle est prête pour entamer ce tableau-là, mais avec un match difficile au premier tour quand même.
Nico?
Mais en même temps, je trouve Hugues extrêmement positif dans la mesure où, oui, son style de jeu puis la manière dont elle dispute ses matchs est encourageant. Oui. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas un gros résultat de Leila. Oui, c'est beau, le top 40. Là, elle en est sortie. Il y a Monterrey qui arrive dans quelques semaines, là où elle est imbattable à chaque année. Mais il me semble que pour Leila, s'il commence à se faire temps de ramener des résultats puis que son rendement soit à la hauteur de son jeu ultimement, tu sais.
Mais elle est pas loin, Nico. Tu sais, sa défaite contre Garcia en Australie, 7-5-7-6, un match très serré, victoire solide contre Alizé Cornet. Je parle de son premier tour à Abu Dhabi qui sera contre Shelby Rogers. Et si elle peut battre Shelby Rogers, je pense qu'elle va être ça serait une très belle victoire qui lui donnerait peut-être un bel élan pour le reste de la semaine. Mais elle est pas très loin. Et moi, j'ai plus confiance en la solidité mentale et physique de Leila que de Bianca à ce stade. Donc, on verra ce qui va arriver à Abu Dhabi, mais je suis assez positif là, pour la saison qui s'amorce pour Leila.
OK, les gars, je vous envoie une courbe. On se parle, on est le 6 février. Si on se reparle à la fin de l'année, au final de la WTA, qui est devant au classement, Leila ou Bianca?
Moi, je n'amiserais pas sur Bianca. Je ne miserais pas sur Bianca parce que c'est trop, trop incertain. Elle peut partir pour 3 mois. Là,
je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Alex. Si j'avais à miser, j'irais avec Leila Fernandez aussi parce que je pense qu'elle a plus de marge de progrès, de stabilité devant elle. Bianca, ça reste fragile. Si tout va bien, et encore une fois, c'est pas évident que tout aille bien pour Bianca pendant plusieurs mois. Bianca pourrait encore aller chercher, je le répète, un gros titre comme ça. Hein, on va parler d'un WTA 1000. Peut-être pas un grand chelem, mais je la verrais encore aller chercher un WTA 1000. Mais je miserais sur Leila Fernandez aujourd'hui.
Ben, je pense qu'il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise si elle remporte un grand chelem. Je veux dire, ça se pourrait très bien. Une Bianca en santé, c'est une fille hyper dangereuse. T'sais, honnêtement, là, je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle est comme en train de devenir la Juan Martín del Potro du côté féminin. C'est-à-dire une fille qui peut très bien gagner des grands chelems, qui est un chien dans un jockey, dans chaque tableau, qui a tout le talent au monde, mais qui est blessée systématiquement.
Ouais. C'est un bon parallèle, Alex. Très bon parallèle, tout à fait.
Et ben, si elle peut avoir une carrière qui va ressembler à Del Potro, ben, ce sera déjà pas si mal parce que Del Potro passe à l'histoire comme un grand quand même, là, en dépit de toutes ses blessures. Bon, ben, on va suivre ça. On va y revenir là, dans le tournoi de Abu Dhabi un peu plus tard dans l'émission là, parce que je veux qu'on regarde quelques match-ups, là, mais je peux vous dire que ce sera pas facile a priori pour Leila Annie Fernandez. Mm-hmm. Un petit mot sur un autre Canadien, messieurs. Diallo a fait un quart de finale à Cleveland. Alors, ben, ça, c'est intéressant parce que, bon, il fait déjà des résultats qui sont dignes de mention, alors que, bon, en pratique, il est une recrue sur le circuit professionnel.
Oui, puis avec Diallo, les gars, on le sait, là, c'est un projet, Diallo. Fait que oui, au cours de la saison, on va analyser ses résultats, on va le suivre, on va les commenter, les analyser. Mais il ne faut pas se faire d'attente avec Diallo, là, parce que si on l'a dit, c'est un projet, il faut prendre son temps. Il a tout pour réussir. Il a vraiment tout pour réussir. Il est bien entouré. Il est dans le même entourage que Félix Auger-Aliassime. Mais ouais, ça va prendre du temps pour Diallo. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, après un mois d'activité, c'est bien. C'est prometteur. Cleveland, Alex vient d'en parler. Il est à Dallas. Voyons voir ce qui va arriver. Mais Diallo, regardez-le aller. Mais n'ayons pas d'attente trop rapidement, je pense, de son côté.
Hugues? Ben moi, j'ai beaucoup confiance en Gabriel Diallo de continuer sa progression au classement. Ses performances en Challenger en 2022 ont démontré qu'il était prêt à devenir pro à temps plein. Et je pense aussi qu'il est dans le bon environnement au niveau coaching, au niveau soutien avec Tennis Canada aussi. Donc moi, je serais pas surpris qu'on ait quelques performances notable pour Diallo dans les prochains mois. Pourquoi pas quelques rondes dans des ATP 250. Donc encore une fois, il faut pas mettre la barre trop haute, mais physiquement, son style de jeu, son côté athlétique, son excellent service laisse présager de très très belles choses. Puis c'est une bonne tête, c'est un gars intelligent, posé. On lui a parlé, Alex, tu te souviens beaucoup à Granby, champion du Challenger de Granby d'ailleurs. C'est un athlète qu'on va suivre de très près cette année.
Messieurs, revenons du côté des gagnants, là, maintenant qu'on a fait le tour du côté des Canadiens, de ce qui s'est passé la semaine passée. Là, à Lyon, il y a une fille convaincue que vous ne connaissiez pas beaucoup, Alicia Park, qui a remporté son premier titre sur le circuit de la WTA. Est-ce que vous avez été surpris de voir ce nom-là popper comme une championne?
On la connaissait pas, mais je pense que Caroline Garcia la connaît maintenant. Cette Alicia Park, parce qu'elle lui a servi, les gars, un match. J'ai pas regardé le match, je n'ai vu que des faits saillants, mais ça a été, honnêtement, ça a été costaud comme duel. Park jouait comme une fille du top 5 mondial, c'était hallucinant de voir ça aller. Garcia aussi, là, j'imagine que c'est une féroce compétitrice. Je pense pas qu'elle a pris ce match-là à la légère, mais lorsqu'elle a vu qu'elle affrontait en finale, elle a dû se dire « Je vais jouer ma game simplement, puis ça devrait suffire. » Et ça n'a pas suffi. Chapeau à la jeune camp.
Oui, donc une autre Américaine à suivre de près. On va parler un peu plus tard de Jessica Pegula et de la résurgence incroyable du tennis américain, tant du côté féminin que masculin. Donc, ajouter la jeune Alicia Park à ce groupe-là, 22 ans, 1m85, gros service qui l'a très bien servi justement pour ce tournoi à l'intérieur. Elle bat la quatrième mondiale. Sur ses terres en France. Donc, c'est une victoire qu'il faut.
Non, exact. C'est une victoire assez surprenante, là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Oui. Oui. Ouais, clairement.
Très, très surprenant. C'est intéressant parce que, elle a quand même battu Petra Martis dans ce tournoi-là, Caroline Garcia, comme vous le disiez. Alors, c'est une fille qui est maintenant 51e mondiale, alors que l'année passée, jouait à peu près que des Challenger ou des tournois de niveau Challenger. Et, ou quand elle jouait dans des tournois un peu plus connus, disons-le comme ça, elle s'inclinait rapidement en qualification ou dans les premiers tours. Alors, elle vient de frapper un très grand coup, Alicia Park, là. Mais c'est un nom qu'on va surveiller dans les prochaines années. Revenons en Thaïlande parce que, c'est là qu'était Bianca Andreescu, Nico, et c'est dommage parce que Lin Zhu, qui a remporté le tournoi d'une certaine manière, a battu à peu près aucun joueurs ou joueuses bon, significatives dans ce tournoi-là, là, peut-être Tamarès Jancic ou les Chaturenko en finale, mais il reste que c'est dommage parce que ce tournoi-là aurait pu appartenir à Bianca Andreescu facilement et c'est Lin Zhu qui a finalement remporté le titre.
Ben voilà, puis tu sais, rien pour enlever à Lin Zhu, n'en demeure pas moins que la favorite, puis celle qui, je pense, était légitime pour gagner ce tournoi-là, c'était la Canadienne. Puis tu sais, oui, Tourenko a gagné contre Bianca un peu par défaut, en fait, par défaut. Puis elle n'a pas été de taille en finale. Elle a perdu 4-6, 4-6. Il fallait que Bianca remporte ce tournoi-là. Chapeau à la Chinoise, mais il en demeure pas moins que c'est une victoire un peu par défaut, je pense.
En même temps, c'est une joueuse qui joue bien. Là. Bon, elle a ce titre-là. Elle a un quart de finale à Auckland et un quatrième tour en Australie. Alors, c'est une fille qui, visiblement, a des bonnes sensations depuis le début de la saison, Nico. Alors, ça, ce sera une autre joueuse à surveiller dans le cas de Lin Zhu. Là. Alors, deux joueuses qui ont, si on veut... popé sur notre radar de joueuses. Nico, on va faire une courte pause et au retour, ben, on a une entrevue de Hugues Léger avec Richard Quérillon de Tennis Canada.
Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin dans une des magnifiques suites de l'hôtel Montville. Leur offre spécialement conçue pour cette occasion inclura une nuitée, un souper trois services pour deux personnes, un petit déjeuner pour deux, une boîte de chocolat, des ballons et un départ tardif. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Venez prendre un verre au restaurant-bar Monem de l'Hôtel Montville. Parfait pour une fin de journée après le travail ou pour un moment entre amis. De nombreux cocktails savoureux conçus pour la saison hivernale vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hotelmontville.com.
Alors, on est très heureux de recevoir aujourd'hui Richard Quérillon, directeur des événements professionnels et internationaux à Tennis Canada, au podcast Sur la ligne. Richard, qui est un joueur important dans l'équipe de Tennis Canada, ici au Centre national. Richard, bienvenue Sur la ligne.
Bonjour Hugues, merci. Merci de me recevoir, c'est gentil.
Très heureux de te recevoir. Bonne année tout d'abord. Et justement, on voulait parler des dossiers chauds pour toi en 2023. Si tu peux nous donner un peu tes priorités pour l'année qui s'amorce.
Oui, ben ça s'annonce pour être une grosse année, là, c'est sûr. On dit ça maintenant à chaque année. Là, c'est quand même c'est un running gag là, parce que il y a peut-être une dizaine d'années, ben, ça commençait toujours un peu plus tranquillement en janvier, puis ça s'accélérait, plus on s'approchait évidemment de l'Omnium Banque Nationale ou de la Coupe Rogers dans ce temps-là. Mais maintenant, c'est vraiment 12 mois par année, puis c'est une course hein, du début jusqu'à la fin. Puis, mais on fait ça avec le sourire, puis on fait ça avec toute la passion qu'on a, parce que c'est le fun, on ne peut pas se le cacher, on aime bien ce qu'on fait. De mon côté, ben, je m'occupe de quand même plusieurs dossiers, puis... mes gros chantiers cette année sont bien sûr les tournois professionnels qu'on organise partout au Canada. Je me concentre surtout au Québec. J'ai un collègue qui s'occupe du reste du Canada, mais on se compte assez chanceux au Québec d'avoir autant de tournois. Ça représente environ la moitié des tournois professionnels dans tout le pays. Donc, c'est une grosse partie de la tarte là, qu'on a ici au Québec. Et puis, ben, pour être franc, moi, je pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup à chaque fois pour organiser le plus souvent. Toutes les fois qu'il y a une occasion d'en avoir un nouveau, ben, je pousse pour le faire au Québec pour plusieurs raisons. On a vraiment un marché vraiment de passionnés de tennis ici au Québec. Les gens aiment leur tennis et puis c'est vraiment prouvé à chaque fois qu'on organise un tournoi, c'est fait avec... disons, beaucoup de passion, puis c'est fait avec toutes les bonnes raisons aussi, dans le but d'offrir les meilleures conditions possibles à nos athlètes, et puis de redonner à la population aussi une expérience vraiment exceptionnelle pour faire grandir le sport au pays, puis ça fonctionne super bien. Donc, cette année, ben on va avoir 23 tournois professionnels au pays. Wow. Et puis 11 de ceux-là sont au Québec. Et puis on a la chance de pouvoir avoir une balance de 12 tournois féminins, 11 tournois masculins. C'est aussi un objectif qu'on se fixe là, chaque année, d'avoir autant d'opportunités chez les femmes que chez les hommes. Ouais. Et puis d'offrir également des bourses de valeur égale. C'est très important. C'est vraiment un point stratégique extrêmement important chez Tennis Canada. Puis on réussit à le faire souvent au cours d'une période de 2 ou 3 ans. Mais je te dirais qu'on est déjà très, très près de l'objectif, et même en 2023, parce qu'il y a eu énormément de changements depuis 2020, là, on le sait. Là, donc, les plans stratégiques qu'on avait à ce moment-là, il a fallu qu'on les jette au vidange pas mal pour repenser un peu à notre... On était plutôt en mode survie 2020-2021, mais avec les succès qu'on a connus cette année, entre autres, puis le fait qu'on a pu tenir le tournoi en 2021, ça nous a remis vraiment sur les rails pas mal plus rapidement que prévu. Et puis, on a engendré énormément de revenus dernièrement aussi avec les succès des 2 tournois, Omnium Banque Nationale et le tournoi à Toronto. Ouais. Et ce qui fait en sorte que nous, ben, on peut redonner au développement du sport. Puis une grosse partie de ça, ben, c'est dans l'exécution de tournois professionnels au pays. Et donc c'est vraiment un élément extrêmement important du développement, parce que c'est là que nos athlètes peuvent évoluer puis aller chercher des points importants. Puis fait que c'est une partie de notre plan stratégique qui est extrêmement important. Puis cette année, j'ai pas mal l'impression que ça va être probablement notre meilleure année en termes de nombre de tournois. Autant ITF junior, je te dirais, que les tournois professionnels.
C'est ça que je voulais te parler, Richard, justement, à part les tournois grand public que les gens connaissent bien et aiment depuis des années, évidemment l'Omnium, le Challenger de Granby, les Invitational de Repentigny. Parle-nous un peu d'autres tournois que les gens connaîtraient peut-être un peu moins, auxquels ils peuvent assister et qui pourraient les intéresser aussi, parce que beaucoup de gens ne sont pas toujours au courant de ce qui s'en vient là, au niveau des futures ou d'autres niveaux de tournois.
Ouais, ben ça en prend à tous les niveaux si on veut permettre à nos athlètes justement de gravir les échelons. C'est un peu ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que ces tournois-là sont pas tout à fait aussi connus que nos gros tournois. Puis par contre, ils ont vraiment ils jouent un rôle extrêmement important là, pour nous. Et puis donc c'est vraiment un peu un crescendo. T'sais, on part avec les tournois juniors internationaux ITF, par contre, comme le tournoi de Repentigny, qui est très connu, celui-là, bien sûr, parce que c'est le tournoi le plus important, le tournoi junior le plus important qu'on a au Canada. C'est le seul tournoi du calibre grade 1 maintenant, qui a changé de nomenclature là, maintenant. Je pense qu'on l'appelle 300 maintenant, mais tout ça pour dire que c'est le tournoi le plus élevé après les grands chelems pour un tournoi junior. Donc, lui, il est très connu, mais on en tient d'autres quand même, autant à Québec qu'à Montréal, par exemple, qu'à Ottawa, et puis un peu partout au pays. Puis ces tournois-là, ben, servent à notre relève, à nos jeunes juniors, autant du centre national que les joueurs des différents clubs qui souhaitent avoir de l'expérience dans les tournois internationaux de haut calibre junior. Ouais. Et puis, ben, par la suite, ben, ça les amène à pouvoir aussi faire des tournois professionnels d'entrée de niveau. Là. Donc, les tournois ITF, le circuit ITF se spécialise vraiment dans ce type de tournoi-là. Du côté masculin, on débute, nous, nos tournois de premier niveau sont des tournois qui offrent 25 000 $ en bourse. Et ça, on en a quand même plusieurs. Cette année, on en ajoute 7, pour vous donner un exemple. C'est des tournois c'est pas que c'est pas dispendieux. Faire un tournoi, ça coûte cher. Mais pour nous, c'est vraiment un investissement, parce que c'est des points qui reviennent directement à nos athlètes. Et puis, c'est de l'argent bien investi. Mais c'est quand même des tournois qui sont un peu moins coûteux là, comparativement, mettons, à un tournoi Challenger. Donc, on essaie d'en faire le plus possible. Oui. Et puis, ils sont pas aussi compliqués non plus à organiser, de parce que les standards sont pas aussi élevés que les tournois Challenger et autres. Donc on en a quand même 7 nouveaux cette année. Et puis, entre autres, on en fait 2 au stade de IGA au mois de mars. Donc, 2 d'affilée. Puis ça va être extrêmement apprécié. Là. Les athlètes ils vont pouvoir vraiment rester sur place puis évoluer sur les mêmes terrains, rester au même hôtel. Et puis, pour 2 semaines d'affilée. Fait que ça, c'est toujours bien apprécié. Et puis, du côté des filles, au mois de mars aussi, ben, il y a des tournois à Toronto, par la suite, c'est à Fredericton. Donc, un mois extrêmement important pour le développement, le mois de mars. Là, ça a toujours été un mois dont les coachs nous ont demandé d'avoir des tournois, parce qu'on travaille beaucoup avec la haute performance là, pour s'assurer d'avoir de couvrir vraiment les moments de l'année où c'est plus important pour nos athlètes d'avoir des tournois.
Ces tournois-là, est-ce qu'il y a des estrades temporaires qui sont installées sur les terrains intérieurs du stade des GIA? Comment vous êtes installés si jamais il y a des gens qui sont intéressés à venir assister au match?
Ouais, ben nous, on va mettre des chaises, c'est sûr. Oui. Des estrades, c'est un petit peu plus compliqué à l'intérieur de notre côté, mais on installe des façons là, de voir les matchs, ça c'est oui, sûr. Oui. Au niveau de les balustrades, du bistrot, des chaises sur des terrains libres là, qui donnent accès à voir les matchs. Et puis je fais affaire aussi avec des gens qui vont m'aider à pouvoir mettre en place un système de pointage pour qu'on puisse suivre les pointages un peu plus facilement. Là. Donc et puis ben on installe vraiment tout ce qu'on peut là, pour rendre cette expérience-là aux athlètes là, le plus proche d'un tournoi de haut niveau possible avec un lounge, des télévisions, on offre le transport, l'hôtel, c'est un hôtel haut de gamme aussi qu'on va référer, puis ces joueurs-là, ben c'est souvent leur première expérience en tournoi professionnel. Fait qu'il faut que ça soit quand même agréable.
Oui. Ben, parle-nous un peu au niveau infrastructure, là, qu'est-ce qui s'en vient? On sait que le format de l'Omnium va évoluer dans les prochaines années. Ça va être plutôt un tournoi sur 10 jours avec plus de joueurs et joueuses, mais aussi au niveau infrastructure en général là, du Stade des Géants, est-ce qu'il y a des projets qui se préparent en ce moment?
Ouais, ben on a quand même des gros dossiers là, qu'on souhaite s'attaquer là, bientôt. Là. C'est sûr que, comme tu l'as dit, on va pouvoir bientôt annoncer officiellement, quoique c'est quand même quelque chose qui est connu, là, comme quoi que le tournoi va rester un tournoi Masters 1000, mais ces tournois-là vont gagner en importance, là, c'est-à-dire de par le souhait du président de l'ATP de pouvoir rendre les tournois au même niveau que les Masters de Miami et Indian Wells, là, c'est-à-dire 96 joueurs sur deux semaines. De notre côté, avec le tournoi de Cincinnati, on est à un moment un peu plus compliqué dans l'été parce que on est entre Wimbledon et le US Open et dépendamment de l'année et puis dépendamment des Olympiques, l'été est soit de 4 semaines ou de 3 semaines, donc c'est du moins entre ces deux tournois-là, ce qui fait en sorte que on est un petit peu plus limité. On ne pourra pas faire des tournois sur 14 jours. On va s'en tenir à des tournois sur 12 jours, ce qui va nous donner, dans le fond, deux tournois de une semaine et demie chaque. Ouais. Mais tout ça pour dire que si on est pour avoir 96 joueurs, évidemment, il va falloir probablement gagner en espace pour les accueillir, ces athlètes-là, parce qu'on a présentement un tournoi à l'aluminium de 56 joueurs, puis on est quand même... On est à l'aise, on offre des conditions exceptionnelles, mais on a quand même pas un espace illimité. Donc on va faire des investissements dans ce sens-là pour pouvoir continuer d'accueillir nos athlètes dans des endroits le plus confortables possible, gagner en espace, hein, parce que les athlètes voyagent avec de plus en plus de monde. Ils ont des équipes vraiment qui couvrent vraiment tous les aspects de leur jeu, que ce soit la nutrition, la psychologie, que ce soit au niveau des entraîneurs, des frappeurs de pratique. Donc, les top joueurs, c'est les athlètes qu'on a à nos tournois, sont accompagnés d'une grosse équipe. Fait que on veut qu'ils soient bien accueillis. Donc, c'est ça. On va vraiment s'arranger pour leur donner les meilleures conditions possibles. On vise vraiment à ce que ces athlètes-là puissent avoir les meilleures conditions en termes médicaux, préparation pour leur match, au niveau aussi des soins qui vont être apportés, là, c'est-à-dire pour qu'ils puissent être vraiment en forme pour continuer, parce qu'on est à peu près, on a dépassé un petit peu la moitié de saison à ce moment-là, en plein mois d'août, mais il reste quand même beaucoup de gros tournois, que ce soit le Masters de Cincinnati et puis le US Open, évidemment. Mais tous ces athlètes-là souhaitent aller chercher le plus de points pour participer au final où il y a beaucoup, beaucoup de sous. Ouais. Donc, c'est important qu'on les tienne en forme, hein, parce qu'ils ont passé plusieurs mois déjà sur le circuit. Donc, c'est vraiment un grand chantier qu'on souhaite s'attaquer encore cette année-là. Ou du moins dans les prochains mois.
Très bien. À part ça, ben, je te parle de dossier un peu plus long terme, mais est-ce que le dossier du toit est toujours d'actualité ou c'est un truc qui n'est pas une priorité à court
terme? Ouais, c'est sûr que nos dossiers pré-pandémiques, disons, ont évolué peut-être là, au cours des derniers mois, mais on le garde toujours en tête. C'est peut-être pas nécessairement au-dessus de la liste en ce moment parce que on a quand même des beaux projets là, qui s'en viennent là, justement avec le changement au niveau du format des tournois. Donc par contre, on sait à quel point que c'est important pour les circuits de pouvoir assurer, surtout au niveau des droits télévisuels, de pouvoir assurer que les matchs se jouent. À Montréal, on est quand même un petit peu plus enclin à recevoir de toutes sortes de de température, puis des fois, des fois, c'est ça, ça peut durer assez longtemps, et puis ça met vraiment, ça met de l'ombre un petit peu sur notre spectacle de ne pas pouvoir offrir le tennis qu'on veut là, à cause de la température. Fait que avoir un toit, ça serait pas un luxe, mais ça serait, disons, quelque chose de vraiment le fun de pouvoir faire. Puis ça nous assurerait aussi de pouvoir présenter un bon spectacle pendant plusieurs années, de recevoir les droits télé, puis et ces droits télé-là, bien évidemment, vont toujours continuer à augmenter. Donc, il faut essayer de rivaliser aussi avec les autres tournois partout dans le monde, parce que ces autres tournois-là sont aussi dans la même situation où ils doivent offrir le meilleur site possible pour conserver les sanctions puis rester au-dessus de la pyramide. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire aussi avec le toit, mais c'est ça. C'est un projet peut-être qui va être sur de plus longue haleine un petit peu, mais ça, ouais. C'est quand même un sujet qui revient de temps à autre dans nos conversations à l'interne. Ouais.
Je te remercie beaucoup de ce point sur ce sujet-là. Écoute, Richard, je te remercie beaucoup. On va suivre cette évolution au niveau des opérations, des événements toute l'année. Puis je suis content qu'on discute d'événements qui sont au-delà de l'Omnium parce que les gens sont curieux et sont friands de pouvoir assister à du tennis toute l'année. On sait que la Coupe Billie Jean King revient aussi au Canada, à Vancouver, là, pour la première phase de qualification. Donc, c'est le fun de revoir l'événement qui revient. Puis espérons qu'on pourra aller voir aussi ces joueuses à Montréal éventuellement.
Sûrement, ouais. Non, c'est nos athlètes qui. Puis on a quand même attendu de bonnes choses. Là, c'est-à-dire, on croit bien que l'équipe A du Canada devrait représenter l'équipe là, en Fed Cup, en Billie Jean King Cup plutôt, ouais. Au mois d'avril. Et puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'on a besoin de leur présence là, si on veut continuer à se qualifier, participer au final un peu plus tard cette année. Puis espérer aussi remporter le tournoi comme on l'a fait du côté masculin l'an passé. Là, c'est les bienfaits de ça sont tellement nombreux. On va débuter d'ailleurs sous peu une tournée avec le tournoi de la Coupe Davis pour pouvoir continuer d'inspirer un peu les jeunes et les joueurs d'un peu partout au pays. C'est important. On n'a peut-être pas eu la couverture espérée là, lors de la victoire au mois de novembre dernier. Donc, oui. Mais il reste qu'on a quand même en notre possession le trophée jusqu'au mois de septembre. Puis il faut faire connaître cet événement-là, il faut faire parler de nous encore, là, justement, pour dire à tout le monde que c'est nous les champions du monde.
C'est certain que le trophée de Coupe Davis, qui était un trophée mythique du sport professionnel, tout sport confondu, il serait un excellent outil marketing si vous pouvez le montrer au plus de gens possible. Ouais. Je pense que ce sentiment de fierté qu'on a va se transmettre à la population. Là, donc, c'est une très bonne idée qu'on le voit. J'ai bien hâte de voir ce que vous aurez comme plan pour que les gens
accèdent. Ça s'en est bientôt, ouais.
Richard, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Très apprécié. Puis on se reparle très bientôt.
Avec plaisir, merci.
Merci Richard, salut.
Bye bye.
Merci encore à Hugues Léger et Richard. C'est un personnage tellement sympathique, Richard Quirion, un gars que je connais depuis des années et avec lequel c'est toujours, mais là, tellement agréable de travailler. Alors, mais merci encore à Hugues pour cette excellente entrevue et à Richard pour le temps qu'il a pris avec Hugues Léger. Messieurs, de notre côté, on va faire une autre courte pause et au retour, on va regarder ce qui s'en vient dans le cas de nos Canadiennes et Nicolas Richard a fait un excellent article sur Jessica Pigoulin, on va en parler également.
Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin dans une des magnifiques suites de l'hôtel Montville. Leur offre spécialement conçue pour cette occasion inclura une nuitée, un souper 3 services pour 2 personnes, un petit déjeuner pour 2, une boîte de chocolat, des ballons et un départ tardif. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Venez prendre un verre au restaurant-bar Monem de l'hôtel Montville. Parfait pour une fin de journée après le travail ou pour un moment entre amis. De nombreux cocktails savoureux, conçus pour la saison hivernale, vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hotelmontville.com.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes et on est également diffusé à BPM Sport tous les lundis soirs. Nico, toi, tu ne fais pas que parler sur le podcast, tu écris beaucoup également sur le tennis et tu t'es lancé dans l'histoire de Jessica Pegula qu'on a parlé à plusieurs reprises. Peut-être un peu rappeler son histoire et rappeler pourquoi tu voulais nous en parler aujourd'hui.
Ben, Jessica Pegula, c'est une fille, si vous nous écoutez sur une base régulière, vous savez à quel point on l'a en haute estime. Pegula, on l'aime pour son jeu, pour la manière dont elle a mené sa carrière jusqu'à maintenant. Puis c'était le point d'ancrage de mon article qui est paru ce matin dans la presse. J'avais l'idée de parler de Pegula depuis le US Open l'année dernière aux États-Unis, chez elle, parce que son histoire est fascinante là, pour résumer, là, elle vient d'une famille extrêmement fortunée, la famille Pegula. Son père a une fortune estimée à peu près 7 milliards de dollars. Et pour l'information, son père est propriétaire des Bills de Buffalo et des Sabres de Buffalo dans la Ligue nationale de hockey, dans la NFL. Tout ça pour dire que pourquoi la raison pour laquelle j'admire Pegula, c'est parce qu'elle a décidé de faire son chemin seule, malgré la fortune de ses parents. Elle a décidé de jouer au tennis, puis elle a refusé de suivre le chemin facile, c'est-à-dire... de se faire payer des tournois, ou du moins, c'est pas elle qui... Comment je dirais ça? Les coups qu'elle gagne, c'est pas à cause de la fortune de ses parents. Puis elle a décidé de faire des tournois ITF, des Challenger. Elle a traîné sa valise, elle a traîné son bagage au Saguenay, à Granby, en Virginie, au Nouveau-Mexique. Elle n'a pas pris la route facile de l'université parce qu'elle voulait faire son chemin elle-même. Puis aujourd'hui, elle est quatrième mondiale et je trouve ça tout à fait admirable. Et ce pourquoi j'ai envie d'en parler, les gars, c'est pas pour auto-promouvoir mon article loin de là, mais c'est pour vous parler des réactions que j'ai eues à la suite de l'apparition de cet article-là. Je m'attendais à certaines réactions comme étant bon, on sait bien une fille de riche qui réussit, une autre privilégiée, ce qui aurait été tout à fait légitime, je pense, dans le contexte où on la connaît peut-être un peu moins. Mais dans 100% des courriels que j'ai reçus, les gars, les échos étaient positifs. 50%, je dirais, étaient. Je ne la connaissais pas. Maintenant, ça me donne une raison de la suivre. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les gars. On aime Pegula, mais ce n'est pas la fille la plus extraordinaire à avoir joué. Ce n'est pas une fille, ce n'est pas une jeune prodige. Ce n'est pas la fille la plus excitante. Ce n'est pas la fille la plus volubile, mais elle est efficace. L'autre 50% des courriels que j'ai reçus, c'est des gens qui disaient « c'est la raison pour laquelle j'aime la suivre ». Donc, certaines personnes connaissaient son histoire et c'est pour ça, je pense, c'est ce qui donne un cachet particulier au parcours de Jessica Pegula. Je serais curieux de vous entendre là-dessus si vous êtes surpris, mais moi, personnellement, j'ai été surpris de voir à quel point les gens aimaient déjà Pegula ou cet aspect particulier de sa carrière donne le goût aux gens de la suivre.
Veux-tu que je te dise ce que moi, j'en pense, puis par ailleurs, j'invite les gens à aller lire ton article. Et tu l'as parlé, c'est une joueuse, bon, d'abord, qui a une histoire assez exceptionnelle, puis je l'ai dit à plusieurs reprises à quel point elle m'impressionnait, parce que je l'ai toujours dit, tu ne deviens pas quatrième mondial avec de l'argent, c'est impossible. Mais je pense que une des raisons pour laquelle tu as eu beaucoup de réactions, Nico, puis peut-être que je me trompe là, mais c'est une fille qui a joué souvent au Québec. Elle a été finaliste à Québec, elle l'a joué à plus d'une reprise. Elle a joué également Granby. Alors, c'est un nom qui est revenu, bon, je pense pour l'amateur de tennis moyen, là, assez régulièrement dans la tête des Québécois. Et puis là, ben, on l'a vu exploser dans les dernières années, Jessica Pegula. Alors, je pense qu'il y a peut-être un attachement particulier. Tu sais, t'en as déjà parlé dans le passé, moi aussi. C'est une fille qu'on a vue également au Rempart de Québec. Tu sais, écoute, je pense que pour les Québécois, il y a peut-être un attachement peut-être un peu différent. En tout cas, un attachement un peu plus intéressant pour Jessica Pegula, même si c'est une Américaine. Je ne sais pas, tu en penses quoi? Est-ce que c'est logique comme
C'est tout à fait logique, tu l'as dit, elle a joué au Saguenay aussi. C'est une fille, puis tu sais, les Québécois, mine de rien, je pense qu'on aime ce genre d'histoire de travaillante, de fille qui n'a rien pris pour acquis, d'une fille qui réussit. Puis Pegula, c'en est une. C'est une fille terre à terre. Tu sais, on la voit en entrevue, là. C'est pas une fille qui a la grosse tête. Loin de là, même si ses parents sont milliardaires, puis qu'elle, même aujourd'hui, fait partie du 1% en raison de ses succès au tennis. Mais si vous la regardez en entrevue, c'est une fille qui a tellement l'air sympathique. Puis c'est une des filles que j'ai le plus hâte de croiser cet été à l'Omnium Banque Nationale, parce que je suis convaincu, qu'elle va se plaire à jouer ici au Québec et d'y revenir, mais d'autant plus parce que je suis sûr qu'elle va nous offrir du contenu de qualité.
Ouais, ben ça c'est certain. Écoute, c'est drôle parce que tu dis que tu as eu beaucoup de réactions. Est-ce que tu t'attendais à ça, toi, Nico? Parce que je sais que toi, tu tripes sur l'histoire. Moi aussi, j'aime beaucoup ces histoires-là de tennis. Mais est-ce que tu as été surpris par la réaction du public d'avoir autant de gens qui réagissent à ton histoire, finalement?
Pas du tout, parce que à prime abord, les histoires qui retiennent le plus l'attention, habituellement, ce sont les histoires des Québécois, ensuite des Canadiens. Donc, je me disais, c'est l'histoire d'une Américaine, mais là, tu fais le lien, puis j'y avais même pas pensé. Tu vois ce lien avec le Québec qu'elle a peut-être qui est particulier. Mais tu sais, c'était une analyse aussi, c'était pas une entrevue. Donc non, je m'attendais à rien. J'ai lancé ce papier-là dans l'univers parce que je pensais que c'était intéressant. Tu l'as dit, de raconter ce genre d'histoire qui est tout à fait unique. Mais je suis agréablement surpris là, de la réponse des lecteurs ce matin.
Ouais, moi aussi, j'ai hâte de la rencontrer. Hugues, est-ce que tu voulais ajouter sur Jessica Pegula, mais peut-être aussi parler de ce qui se passe aussi du côté du tennis américain qui, bon, il n'y a pas si longtemps, on en parlait avec Ben Rutherberg, il était relégué à une espèce de pays de deuxième tiers, mais là, on n'est vraiment plus là-dedans. Là.
Hugues? Sa ténacité et ses résultats maintenant dans le top 5. Vous m'entendez, les gars?
Oui.
Donc, Pegula, qui est dans le top, qui est maintenant dans le top 5, c'est vraiment un très bel exemple de deuxième génération d'une famille fortunée qui ne décide de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, de mener une vie confortable et de dire non, je vais me battre pour aller chercher un classement d'une des meilleures joueuses de tennis au monde. C'est pas assez évident que ça. Il faut vraiment le vouloir. On sait à quel point c'est difficile de performer à ce niveau-là. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de mérite pour tous les efforts qu'elle a fait. Évidemment, elle a eu des conditions favorables, Jess Pegula, évidemment, pour sa formation, pour l'accès au meilleur coach et tout ça. Mais c'est elle qui gagne les matchs. Donc, moi, je suis vraiment impressionné par ses résultats. Et deuxièmement, tu le mentionnais, Alex, les résultats américains en ce moment, c'est rien de moins qu'une nouvelle ère du tennis américain qui se met en place en ce moment, tant du côté que homme que du côté femme. Ils ont plus de trois fois plus de joueurs et joueuses dans le top 50 en ce moment que la deuxième nation au monde en ce moment au niveau des réussites sur le circuit. Il manque qu'un gros titre de Grand Chelem. On sait que Fritz a gagné l'an passé un Masters 1000. Donc, les Américains sont vraiment en très bonne posture en ce moment. Moi, je suis impressionné du tennis américain. Il se passe quelque chose en ce moment, c'est évident. Et bravo là pour ce rebond du côté américain au meilleur niveau du tennis mondial.
Ben ouais, il y a tellement de profondeur. Il pourrait faire deux équipes de la Coupe Davis, eux, puis avoir deux équipes compétitives. Là, puis c'est même pas des blagues. Là, il pourrait... Ouais, vas-y, Nico.
C'est ça qui est étonnant. Le pire, c'est qu'on va le voir avec les années, là, mais les Américains, depuis quelques années, puis j'adore ce que ça va donner en compétition par équipe, ne sont pas si dominants. On le voit à la United Cup en début d'année. Ça a bien été. Puis je suis convaincu que ça va être un virage aussi parce que Hugues, tu sais, t'es un gros, gros fan de la Coupe Davis. Rappelle-toi les belles années de la Coupe Davis aux États-Unis. Là, ça s'était vraiment assombri au cours des dernières années, voire des dernières décennies. Tu sais, le dernier, je pense, c'est Roddick là, qui a eu des espèces de flémèches à la Coupe Davis. Mais là, dans 2-3 ans, quand il y aura Taylor Fritz, quand il y aura Korda, quand il y aura Tiafoe, attachez votre sucre pour que les Américains vont remporter, ils vont rafler beaucoup de titres, je pense.
Absolument, Nico. Effectivement, on parle d'un des plus grands pays de l'histoire de la Coupe Davis. C'est l'Australie et les Américains qui ont le plus de victoires. C'était, je l'ai souvent dit, des rencontres incontournables pour les plus grands joueurs comme John McEnroe, comme Pete Sampras, Agassi a eu des belles périodes aussi du côté de l'équipe de Coupe Davis. Donc, je pense que les Américains se préparent à faire un retour au plus haut niveau dans les matchs par équipe. Et c'est des joueurs et joueuses extrêmement excitants à regarder en ce moment. Moi, j'ai du plaisir à regarder Tiafoe, Korda, Fritz. C'est vraiment intéressant ce qui se passe du côté américain. Et c'est normal, c'est une grande nation de tennis. Il y a beaucoup de terrain de tennis du côté américain. C'est le berceau, hein, son cadre du côté de la Floride et du côté de la Californie, là, de plusieurs grands talents depuis des décennies là, du tennis mondial.
Ouais, la seule nuance que j'apporterais dans les compétitions par équipe, dans la façon dont le format est fait, Nico, c'est que, t'as pas besoin d'une profondeur de 7-8 joueurs. T'as besoin d'une profondeur de 2-3 joueurs, de la façon dont c'est fait présentement. Alors, quand t'es comme le Canada, puis t'as deux joueurs bien placés dans le top 20, t'as autant de chances de gagner qu'une équipe comme la France, qui pendant des années avait des joueurs placés dans le top 50, une dizaine de, peut-être 7-8 joueurs dans le top 50.
Oui, je ferais à ça, par exemple, que l'avantage d'avoir de la profondeur, c'est que ça oblige pas tes meilleurs joueurs à aller jouer. C'est-à-dire que si on n'a pas Félix, par exemple, à la prochaine Coupe Davis, ce sera compliqué. Tandis que si, par exemple, les États-Unis sont privés de Fritz, ben, il y a Korda et il y a Tiafoe qui peut faire une pas pire job aussi. Fait que oui, si tout le monde est en santé, il n'y a pas de différence. Mais ça donne plus d'options, je pense, à ces pays-là dans ce genre de compétition. Même chose du côté des filles.
Oui, je ne l'avais pas pensé comme ça, mais ouais. C'est vraiment pertinent ce que tu apportes comme point, surtout pour les rondes de qualification. Hein.
Exact.
Oui, et il faut une très bonne équipe de double aussi, n'oubliez pas.
Oui, bien ça, c'est semble-t-il ce qui aurait coulé les Américains lors de la Coupe Davis. Ça a même fait scandale aux États-Unis, on ne reviendra pas là-dessus. Bon, messieurs, on va regarder ce qui s'en vient la semaine prochaine. On a un peu de temps pour parler de ça. Allons à Abu Dhabi, là, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, mais là, je veux qu'on regarde en profondeur un peu plus, de façon, un peu plus approfondie, là. Commençons avec Leila Annie Fernandez, elle s'est qualifiée. Elle affronte Shelby Rogers au premier tour. Ça ne sera pas simple, messieurs. Elle est 1-2 contre Shelby Rogers. Puis Shelby Rogers, c'est une Canadienne killer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait contre les Canadiennes. Elle trouve toujours le moyen de bien jouer contre les Canadiennes. Hugues, est-ce que tu penses qu'elle passe le premier tour?
Bien, on en parlait un petit peu plus tôt dans l'introduction. C'est le genre de match que Leila doit
gagner. Nico, est-ce que tu penses que Leila Annie Fernandez va...
Ben, Shelby Rogers, c'est pas une adversaire facile parce qu'un peu à l'image, puis on y revient, là, c'est une Américaine, mais un peu comme Pegula, elle a rien d'extraordinaire. Elle n'est pas la meilleure dans rien, mais il en demeure pas moins. Non, mais il en demeure pas moins que c'est une compétitrice acharnée. Elle prend aucun point pour acquis, puis elle, que la personne devant elle soit top 10, top 20, top 40, ça lui fait aucun pli. Donc, Leila devra se méfier. Oui, assurément là, que Leila demeure une meilleure joueuse que Shelby Rogers. Mais attention, parce que Rogers, lorsqu'elle décide de jouer et qu'elle décide que c'est son match, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter.
En tout cas, même si elle passe le premier tour, Nico, ce ne sera pas simple pour Fernandez parce qu'elle est dans la partie de tableau de Bencic, qui est la deuxième tête de série dans ce tournoi-là. Mais au deuxième tour, elle aurait Kontaveit possiblement dans les pattes. Alors ça, ce ne serait pas simple non plus. C'est prenable pour Leila. On sait, elle peut prendre à peu près n'importe qui sur le circuit. Mais s'il fallait qu'elle passe Kontaveit, ce serait Bencic et possiblement Rybakina en demi-finale par la suite. Alors, ce sera pas simple dans le cas de Leila Annie Fernandez. Mais bon, si elle veut monter au classement, elle n'aura pas le choix de gagner ces matchs-là. Elle est un peu victime de son classement. On disait qu'elle a dû se qualifier pour ce tournoi-là. Enfin, on verra qu'est-ce qui va arriver dans le cas de Leila Annie Fernandez contre Shelby Rogers au premier tour. Il y a ce match-là à jouer d'abord avant qu'on regarde plus loin. Il y a également Bianca Andreescu qui est dans ce tournoi-là. Nico, son match de premier tour sera contre Putintseva. Tu t'attends à quoi, sachant que elle est 0-1 contre Putintseva? C'est pas une bonne nouvelle, surtout quand on regarde ce qui s'est passé à la fin du dernier tournoi pour Bianca Andreescu.
Ben voilà, en théorie, là, je t'aurais dit que c'est un match facile pour Andreescu, mais là, compte tenu de la manière dont ça s'est terminé en Thaïlande, il y a des doutes, puis je suis certain qu'elle-même est remplie de doutes en ce moment. Va-t-elle pousser la machine jusqu'au bout ou pour elle, c'est un tournoi de rehab pour voir où est-ce que comment son corps tient? Puis si elle l'emporte, là, je sais pas, Alex, tu as regardé le tableau, mais elle peut affronter une fille qui aime jouer contre les Canadiennes, Béatrice Haddad-Maia, qui a été splendide à l'Omnium Banque Nationale, on s'en rappelle, l'année dernière. Donc, un autre deuxième tour pas évident là, pour Bianca Andreescu.
Non, exact. Et puis, sinon, ce serait possiblement Buzková, là, alors qui n'est pas de mauvaise joueuse non plus au deuxième tour. Alors, dans le cas de Bianca Andreescu, c'est déjà un défi. Puis, comme on sait, la fin du dernier tournoi ne nous a pas trop rassurés. Bon, est-ce qu'elle a voulu garder ses énergies pour le WTA 500 de Abu Dhabi? C'est pas impossible non plus. Mais en même temps, quand tu regardes le tableau puis tu as une chance de gagner, je pense que tu y vas si tu es en santé. Alors, c'est un peu ça qui est un peu inquiétant dans le cas de Bianca Andreescu. Rebecca Marino également est dans ce tournoi-là, Nico. Elle va affronter, elle, Zheng au premier tour. Tu t'attends à quoi de Rebecca Marino?
Ce serait tellement chouette que Marino l'emporte. Oui, pour la victoire, pour faire des points, pour faire un peu d'argent aussi. Mais parce que aussi, je serais vraiment curieux de voir un duel entre elle et Yelena Ostapenko qui a battu ce matin Danielle Collins. Deux filles qui frappent la balle extrêmement fort. Deux filles au très gros service. Ce sera un duel de titans, un duel où les balles, ce serait des boulets de canon. Donc oui, là, mais en fait, je pense que Marino va gagner son premier match, mais je serais très, très curieux de voir un duel Marino-Ostapenko.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dû se qualifier, Rebecca Marino, elle aussi. Elle a battu Bonaventure, qui n'est pas une mauvaise joueuse non plus. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est que son match de premier tour, c'est la 29e joueuse mondiale, Zheng, et elle est 0-2 contre Zheng. Et s'il fallait qu'elle passe le premier tour, elle aurait Ostapenko dans les pattes, qui connaît un bon début de saison quand même, Nico. Et elle n'a jamais battu Ostapenko un seul match, joué un contre l'autre, et c'est Ostapenko qui l'a emporté. Mais bon, ça va être intéressant aussi. Rebecca Marino, dans une bonne journée, elle est dangereuse pour toutes les joueuses sur le circuit.
Ouais, puis on regarde, tu sais, je te dresse un peu le tableau. Tu sais, oui, c'est peut-être pas le tournoi dont on va se rappeler à la fin de la saison parce qu'Abu Dhabi demeure quand même, c'est pas une destination de choix pour le tennis, du moins habituellement, puis dans l'œil des amateurs. Mais il y a tellement du gros calibre de jeu. Il y a Bencic, j'en ai parlé, Elena Rybakina, qui est l'une des meilleures joueuses depuis le début de l'année, Ostapenko qui est là, Kontaveit qui est là, Paula Badosa qui effectue un retour au jeu aussi, nos deux Canadiennes. Il y a vraiment, vraiment du gros calibre de jeu. Puis je voudrais pas faire, là, on n'a pas fait de poule pour ce tournoi-là, mais ce serait vraiment pas évident d'en faire un pour cette édition d'Abu Dhabi.
Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueuses intéressantes qui sont là. Le Kazadkina est la première tête de série. Je te parlais de Bencic tout à l'heure, elle est là également. Rybakina, qui n'a plus besoin de présentation, est dans ce tournoi-là aussi. Il y a une bourse de près de 800 000 $ là, ce qui me semble assez élevé pour un WTA 500. Là, on est tout près du million là, pour, entre guillemets, le prize money, comme on appelle. Alors, j'imagine que c'est un incitatif pour les joueurs et joueuses. Du côté masculin, Nico, petit tour en Allemagne pour Pospisil, on va voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là, mais je veux qu'on se concentre sur le tournoi de Dallas, où Diallo devra se qualifier et Chapeau également va être là. Est-ce que tu penses que Diallo pourrait se retrouver dans le tableau principal lui aussi?
Pourquoi pas? Puis tu sais, il ne faut pas oublier aussi que Diallo est habitué à ce genre de climat. Il a joué dans la NCAA au Kentucky, qui est non loin du Texas. Je pense que c'est un climat, puis un format, puis un environnement qui lui va bien. Comme on l'a dit tantôt, il ne faut pas se faire d'attente. Diallo, c'est un projet, un très, très beau projet. Il faut qu'il prenne de l'expérience. Peut-être qu'il va se qualifier, peut-être que non, mais ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est déjà du bonbon.
La mauvaise nouvelle, c'est que son prochain adversaire en qualification, c'est Brandon Holt. Et là, je ne sais pas si tu te souviens de lui, Nico, mais Brandon Holt, il avait fait toute une performance contre Roberto Bautista Agut au deuxième tour. Il avait forcé à 5-7 à Melbourne. Alors, si tu pousses dans ses derniers retranchements un gars comme Roberto Bautista Agut, qui est aussi un des joueurs les plus réguliers sur le circuit, un joueur qui est tellement difficile à affronter, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour Gabriel Diallo, mais qui sait, ce sera peut-être un match d'expérience dans son cas.
Tout à fait. Et Dallas, par ailleurs, c'est l'un des tournois favoris d'un dénommé Milos Raonic, qui l'a gagné en 2011, 2012 et 2013. Donc, les Canadiens, historiquement, font bien au Texas. Reste à voir si Shapovalov, notamment, peut continuer sur cette belle lancée depuis la Coupe Davis. Ce serait un bon endroit pour mettre sa saison en branle comme il se doit.
Ça va être intéressant, effectivement, dans le cas de Diallo. Et Shapovalov qui a reçu un laissez-passer. On va voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là, Nico. Tu t'attends à quoi de Chapeau de cette année? Est-ce que son début de saison t'a rassuré?
Ah, tout à fait. Il faut croire en Chapeau. Je le dis, puis je le répète, puis je vais le redire jusqu'en décembre. C'est l'année de Denis Shapovalov. Il va revenir. Ça va tellement bien pour lui. Il joue du tennis inspiré. Il semble retrouver ses repères. Il a grandi. Il est devenu plus mature aussi. J'ai l'impression qu'il peut mieux contrôler son état d'esprit au cours du match. Ce sera une grande année pour Chapeau. Je le dis, je le répète. Il y aura demi-finale de Grand Chelem pour Shapovalov cette année.
Ouais, c'est pas le pari le plus risqué de ta carrière, ça, Nico, par contre. Il y a Fritz également dans ce tableau-là et Tiafoe, notamment, dont on parlait un peu plus tôt cette année. Nico, l'épisode tire à sa fin et tu le sais, c'est ton moment. Le moment, it's your time to shine, mon cher Nicolas Richard. Comme c'est la tradition, je t'offre le privilège, le plaisir, l'honneur de terminer dignement cet épisode de Sur la ligne.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.